Montfermeil et Bosquet, j'oublie pas d'où je viens, c'est important. Super important. Juste dire qu'aujourd'hui c'est possible, hein, on part de rien, on n'a pas fait d'école de cinéma, ça fait 20 ans qu'on se bat et finalement aujourd'hui on se retrouve là en compète officielle, c'est beau.
Ah, ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit, t'as pas le d'or.
Une all to vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
C'est lequel?
Una all to vous. Now, go away now.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Un apprenti Spielberg, comme l'avait défini un sénateur après sa vidéo sur une bavure policière dans sa cité. Il n'avait pas tort sur un point, ce sénateur. Lajli apprenait son métier de réalisateur en filmant. Des bosquets aux marges du palais et à l'arrivée, un vrai grand film de cinéma. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour.
Oui, comment transformer une réalité sociale et politique en un film humain, tendu, sans clichés, dans une dramaturgie puissante. Bonjour Lajli.
Bonjour.
Réalisateur donc de ce film Les Misérables, une plongée dans les bosquets à Montfermeil et à 15 km de Paris, trois flics dans une voiture, en ronde permanente et une petite mèche qui va finalement enflammer la cité. Un enchaînement d'événements, tous crédibles, tous vécus et écrits avec vous. Bonjour Giordano Giderlini.
Bonjour.
Ce prix du jury à Cannes a traversé les frontières jusqu'aux États-Unis où nous retrouverons Didier Allouche qui nous racontera l'impact de votre film à Hollywood, Les Misérables, sur les écrans français dès mercredi prochain. Le Festival de Cannes 1939, comme si vous y étiez, à Orléans cette semaine. Et d'ailleurs, vous y étiez, Laurent, vous nous raconterez. Ouais. Enfin, les sorties de ce mercredi, Une femme en Tunisie, Un Little Joe, Le mémorial de la Shoah, L'âme du vin et Le Mans 66. Oui, c'est parti.
Nous sommes loin ici de la French Connection des années 70 et du port de Marseille. Le cannabis arrive en 36 ou 48 heures du Maroc en go fast. C'est une méthode utilisée par ces trafiquants pour être pratiquement intraçable par les forces de police. Biron, surnommé le maire, est le taulier, comme il dit, du terre-terre, plus exactement. Car ici, chaque place est gérée par un caïd.
Ça, on est arrivé sur mon terrain. La forestière, cousin, bah, c'est ici qu'on contrôle sa mère. Vas-y, guette comment c'est mort. Guette. Pour rien, pas de ravalement. Regarde, on dirait pas Bagdad ce bâtiment, puis pas sa grand-mère. Putain, les poubelles, c'est super propre ici. Y a rien, personne s'occupe de nous. Ici, c'est la merde, mon frère, on s'occupe de nous-mêmes. Ah ouais, donc ici, t'as pas le choix. Faut faire des pépettes, mon frère. Regarde comment c'est, faut s'en sortir. Regarde les jeunes, ils nous regardent, ils sont morts. Y'a rien ici, y a pas d'avenir, cousin. On dirait un four, la cité.
Lajli, vous maîtrisez tellement votre sujet, puisque c'est votre vie depuis petit dans la cité des Bosquets, à Montfermeil, que vous êtes capable d'en faire une parodie avec la complicité de Charles Villeneuve, le journaliste Go Fast Connection. C'était en 2008 une façon aussi de dénoncer un discours médiatique, j'imagine, plein de clichés. Or, Les Misérables, votre film, c'est tout le contraire, puisque c'est filmé de l'intérieur. Faire du cinéma avec la réalité, c'était ça l'enjeu.
Oui, bien sûr, c'était ça l'enjeu, c'était surtout de raconter ces territoires, de raconter ma vie, parce que il se trouve que Les Misérables, c'est une partie de mon histoire, donc moi j'ai envie de raconter le réel, ce qu'on vit au quotidien dans ces quartiers.
Comment on fait du cinéma avec ça, Giordano Giderlini? Comment d'abord on écrit ça? Parce que il y a une expérience qui est concrète, après il faut en faire un film.
Vous n'êtes pas de Montfermeil.
Non, je suis pas de Montfermeil, je suis de Paris, ouais. 19e, place des Fêtes. Il y a quand même.
Oui, c'est pas mal.
On est un petit peu dans un quartier avec certaines similitudes.
Ouais.
Mais une rencontre avec Lajli, c'était assez chouette. On s'est d'ailleurs croisé à Belleville et on a discuté. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé. On a peut-être pratiquement appris à être amis avant de se lancer totalement dans l'écriture. Et puis il m'a confié des histoires. De plus en plus d'histoires.
Histoires folles aussi.
Oui, l'histoire d'un garçon qui un jour vole un petit lion dans un cirque. Ouais. Je me suis dit, c'est quand même pas mal comme histoire. Des histoires de guet-apens, de rapports de force avec la police, avec tous ceux qui ont autorité dans le quartier, comment les gamins... puisque c'était plutôt une époque de ton adolescence qui était marquante. Et ça, c'est un... C'est une expérience extraordinaire. Et dans ta façon de raconter, je dis ta façon parce que je suis en train de m'adresser à l'Adjili qui est à côté de moi. Excusez-moi, mais je m'adresse aux auditeurs. J'en perds le fil. C'était l'idée de, pardon, la façon que tu avais de raconter ça était très cinématographique. Il y avait une précision. Tu me décrivais les cages d'escalier, les ambiances. Ouais. Et moi qui connais pas très bien cet univers-là, ça m'a immergé tout de suite. Donc j'ai commencé à prendre des notes. Tu as un langage très visuel qui m'a tout de suite, moi, énormément aidé à structurer un scénario.
C'était la déclaration d'amour du samedi matin. Vous dites, effectivement, il fallait à la base se débarrasser des clichés comme la drogue, les armes, la musique rap et même la façon de parler. Pourtant, tout ça existe, mais vous l'avez mis de côté pour vous centrer sur votre sujet, l'Adjili.
Bien sûr, pour moi, c'était important d'éviter tous ces clichés. Moi, j'ai surtout voulu parler de cette réalité, de la réalité du terrain, sans parler de stup ou de drogue ou de trafic, parce que malheureusement, souvent quand on parle de ces quartiers, bah, c'est souvent ces mêmes choses qui reviennent. Et moi, pour moi, c'était important d'être le plus juste possible et éviter tous ces clichés. Ouais.
Alors, à la façon d'un taxi driver de Scorsese, le taxi longe une rue avec tout ce qui s'y passe, les prostituées, les trafics, etc. Vous, c'est pareil dans un autre genre. Vous avez ce Stéphane qui est en fait nous, qui intègre cette BAC et à qui les deux autres policiers expliquent extrait.
Bonjour monsieur. Vive la France, hein.
Bon Pinto, ici on est au Bosquet, je sais pas si t'en as déjà entendu parler, mais à l'époque on rentrait pas, c'était la plus grande plaque tournante du stupéfiant. Il y a eu le shit, la coke et l'héroïne qui a ravagé tout le quartier. Tous les anciens sont morts.
Ok.
Et puis t'as eu les frères Mus qui ont nettoyé le quartier.
Frères musulmans ?
Ouais, la BAC.
La BAC ? Comment ça la BAC ?
La brigade anti-cam.
C'est comme ça qu'on les appelle ici. Par contre, on a un nouveau fléau, c'est la prostitution tenue par les Nigérians. Ils louent des appartements à 400 euros. T'as des prostituées pour 20 euros, 10 euros, c'est devenu normal.
Tu peux te faire sucer pour 2 euros. T'as 2 euros sur toi ?
D'ailleurs, Stéphane, d'ailleurs, il y a eu un travail de scénario par rapport à ça, parce que dans le court-métrage, c'est Stéphane qui commet la bavure. Et c'est très important parce que c'est nous. Donc ça ne devra pas être nous dans un film Giordano.
Oui, c'est ça. C'est un grand débat au départ.
Bah, j'imagine.
Oui, parce que le court-métrage, c'est plutôt un duo entre les deux personnages. Celui qui est interprété par Alexis Manenti, qui était déjà à l'écriture à l'époque, et Damien. Et le personnage de Guada était un peu en retrait. Or là, sur le long métrage, on avait beaucoup plus de temps et on voulait une vraie histoire avec un trio. Et très souvent, dans un trio, c'est deux contre un. Et il faut essayer de casser ça, de voir lequel personnage va être plus fragile, lequel va lâcher prise. Et on va trouver une autre alliance. Donc il y a tout ce jeu-là qui était intéressant. Et nous, ce qui nous intéressait, parce qu'on caractérise beaucoup ces trois policiers. Le personnage de Guada, pour lequel on a beaucoup d'affection, c'est le personnage plus fragile, le personnage qui...
Bah, qui a habité là, et qui est un peu détesté parce qu'il est devenu flic, non ?
Exactement, c'est le maître de cité qui a grandi là, et qui est considéré aujourd'hui comme un traître, d'où son surnom Guada.
C'est ça. Si tu peux expliquer Guada, parce que c'est Guada. Un peu particulier.
Oui, c'est un peu particulier, parce que Guada, en fait, c'est les gens qui viennent de Guadeloupe, et il se trouve que les premiers policiers noirs dans nos quartiers étaient de Guadeloupe. Ouais. Et il se trouve aussi que Guada, quand on comprend le film, bah, il n'est pas vraiment guadeloupéen. Quand il est avec sa mère, il parle en Wolof. Quand il rencontre la mère d'Issa, il lui parle en soninké, malien. Donc on a joué un peu avec tous ces codes. On ne sait pas trop, Guada, africain, guadeloupéen. Enfin, joué un peu cette nuance de se dire que Guada, il est un peu considéré comme un traître.
Donc il faut reconstruire l'équilibre entre les trois. Donc c'est entre du cinéma. Et vos producteurs vous ont bien suivi là-dessus, puisque ce sont les mêmes que pour le court-métrage.
Exactement.
Ils vous ont extrêmement bien supporté. Après, c'est une histoire d'argent qu'il a fallu trouver. Ça n'a pas été aussi facile, l'Adjili. On peut dire ça maintenant après le prix à Cannes.
Oui, ça a été un peu le parcours du combattant. Enfin, sachant qu'on a eu ce cours qui a très bien marché, on était au César avec, on a remporté une quarantaine de prix, plus 150 festivals. On s'est dit que normalement, on devrait pas avoir de soucis à le faire financer. Ouais. Et malheureusement, oui, on a eu beaucoup de difficultés à le faire.
Là, on parle du scénario, et moi, je tiens vraiment, vraiment à associer Toufik Ayadi, Christophe Barrel. ils ont été importants dans l'écriture. Ils nous ont constamment bousculé. Est-ce que vous êtes sûr de des propos du film? Est-ce que c'était assez intéressant?
C'était un vrai travail de producteur et un vrai suivi. Nous, enfin, toutes les versions qu'on écrivait, on leur faisait lire. Ils nous avaient un retour précis et un vrai échange. Et c'était une belle expérience, en tout cas, d'être accompagné comme ça par nos producteurs.
Et moi, c'est la première fois. Sur un tournage, enfin juste avant le tournage, où on me demande pas de retirer 10 pages. Toutes les productions, en général, on n'a pas autant de budget que prévu, et on commence à me dire, comment est-ce qu'on va enlever des séquences, comment est-ce qu'on va enlever 10 pages par-ci, 10 pages par-là, pour que ça rentre dans le plan de travail du tournage. Là, c'est la première fois, non. Les deux producteurs nous disaient, mais n'hésitez pas, si vous avez encore... Ils découvraient ce qui était en train de se passer avec des comédiens, et notamment avec les enfants, et il se passait des choses extraordinaires, donc ils nous disaient, mais... Il n'y a pas encore une autre séquence. Est-ce qu'on peut pas rajouter quelque chose? J'ai jamais vu ça sur un tournage.
La force de ces producteurs, c'est que, enfin, moi, j'avais une condition qui ne devait pas bouger, c'est que je voulais garder ma totale liberté, clairement. Oui. C'est pour ça que j'ai mis du temps à faire mon premier film, parce que j'ai toujours été indépendant, j'ai toujours fait mes films seul. Je tourne, j'écris, je monte. Et là, pour une fois, j'avais des producteurs, et avant de bosser, je leur ai dit, voilà, la condition, c'est liberté totale. Moi, je viens pas d'école de cinéma, je suis un autodidacte, j'ai envie de faire mes propres films. Et ça, ils l'ont respecté. Et vraiment, on n'a eu aucune censure. Au contraire, ils nous poussaient à chaque fois à ajouter des séquences.
Mais ça fait quoi, la vie, quand même? Vous arrivez, vous dites, donc, un premier vrai tournage de cinéma, il y a une prépa, il y a une prod, il y a un plateau, il y a maquillage, coiffure, machin, etc. C'était pas trop angoissant, ça?
Non, pas vraiment. Au contraire, moi, comme je dis, j'ai toujours fait tout seul. Et aujourd'hui, enfin, quand j'ai fait ce premier film, je me retrouve avec plus de 50 personnes à mon service. Enfin, le moindre truc, j'ai un co-scénariste, j'en ai deux. Enfin, j'ai des techniciens.
C'est le luxe.
J'ai toujours bien commencé une carrière de dictateur.
C'est un luxe. Et même, juste rajouter ça, j'ai l'habitude de tout filmer.
Du luxe à Montfermeil.
Hein. Ouais. Bah, oui, bon, ça va. Ça
non, mais du luxe au cinéma. Alors, donc, c'est un peu un opéra. Hein. C'est il y a un peu un chœur antique, effectivement, et avec différentes formes de population. Donc, il y a ce fameux maire qu'on trouvait déjà dans Go Fast. Le maire, c'est un peu l'autorité auprès des garçons, c'est l'intermédiaire entre la mairie
qui fait le lien social, il est là pour acheter quelque part la paix sociale, on va dire.
C'est ça, les baqueux, donc ce sont les flics, on en a parlé, les lycéennes, les microbes, c'est les enfants, l'avenir, et les frères musulmans. Ce qui est fou, c'est que celui qui les incarne vraiment, c'est un ex-toxico.
Un ex-voyou, on va dire, c'est un peu le repenti, qui a fait plein de conneries dans sa vie, et qui a décidé d'arrêter, d'essayer de faire le bien autour de lui.
Et il y a un autre personnage du film, très important, c'est lui. Le drone manipulé. Le drone manipulé par le petit, le microbe, donc Buzz, qui filme sa cité de haut. Ben lui, c'est vous, quoi.
Ah oui, pour avoir filmé ce territoire pendant plus de 15 ans, pour avoir fait du copwatch, oui, c'est ce personnage, c'est un peu moi. Et dans la vraie vie, c'est aussi mon fils, donc ça faisait sens qu'il fasse ce rôle. Et oui, Buzz, ça reste l'œil du quartier, qui est avec son drone et qui surveille.
Ce qui est intelligent, c'est que le drone, en général, est utilisé à tort et à travers dans les reportages pour vous montrer des belles régions, etc. Et là, pour une fois, ça a un sens.
On a voulu en faire un vrai personnage. Enfin, j'estime que le drone est un personnage du film, même si, bon, il y a Buzz derrière, mais pour une fois qu'on l'utilise pas, tout va juste pour faire des belles images. Nous, le drone est assez présent, ça ramène une autre dimension, ça permet de prendre aussi de la hauteur, de comprendre aussi ce territoire. Et surtout, ça fait des très jolis plans.
Ça met en perspective l'autre vrai personnage du film, qui est la ville, qui est cette ville de... En fait, on les associe, qui est Clichy-Montfermeil, et ça permet des plans qui sont pas dans ce que cherche à faire Lage, qui sont pas esthétisants pour être esthétisants. On utilise beaucoup de drones pour les clips. C'est pas du tout le cas. C'est pas un film qui va chercher un visuel comme ça, un peu tape à l'œil, un peu clip, un peu publicité. Au contraire, c'est à chaque fois, je trouve, utilisé avec beaucoup d'intelligence. C'est un peu de la poésie.
C'est un peu le flic de la cité aussi.
Oui, c'est quand même un peu de surveillance.
C'est l'œil du quartier. On va pas dévoiler la fin, mais
mais même sans dévoiler quoi que ce soit.
Gueuse, ça faisait sens en tout cas.
Ouais.
Et en même temps, enfin, ce que je dis à Montfermé, il y a quelques années, enfin moi j'ai filmé ce territoire longtemps, il y a quelques années, la mairie a installé des caméras de surveillance voilà. dans toute la ville, mais vraiment quand je vous dis dans toute la ville, dans toute la cité. Et depuis, je peux vous dire que la délinquance a chuté de plus de 50%. Clairement, le fait qu'il y ait de la vidéosurveillance, ben, ça a calmé tout le monde, que ce soit et les jeunes et les policiers, ça permet de calmer les tensions.
Et ces caméras, elles n'ont pas été détruites ou trouvées?
Non, non, au contraire. Enfin, Montfermé, c'est une ville qui a changé. Enfin, on a eu le plus grand plan de rénovation urbaine. D'un ghetto, on est passé à une résidence super sympa.
Le plan Borloo.
Ouais. Donc, oui, Montfermé, enfin, il y a encore Clichy, Le Chêne Pointu, qui sont encore des cités très dures, mais Montfermé, c'est une ville qui a été mais totalement changée.
On continue sur la Réal, l'Adjli, c'est vous qui cadrez?
Alors, j'ai cadré sur tous mes films, sur tous mes docs.
Et pas là.
Mais j'étais triste au début, hein, clairement. Moi, j'avais cette volonté de tout cadrer.
Ah, j'ai posé la question qui tue là.
Ça me touche. Hein. J'ai insisté auprès de mes producteurs pour filmer. Et finalement, ils m'ont présenté un chef opérateur qui s'appelle Julien Poupard, qui est un homme mais extraordinaire, mais vraiment qui a fait un travail mais dingue. Et donc, je l'ai rencontré, je l'ai fait voir tous mes films. Moi, j'ai dit, je voulais absolument filmer. On a fait des essais. Et quand j'ai vu sa façon de filmer, je me suis dit là. Pris exactement la manière dont je voulais filmer et j'ai été surpris parce que après, je savais exactement comment je filmais, où placer mes caméras, enfin c'était très précis moi, dans mes plans, donc j'ai donné mes indications et à chaque fois il arrivait à me surprendre, à me faire une proposition mais c'est pour ça que j'ai dit c'est pour moi un génie, je me dis oh, putain mais j'arrive pas à avoir cette vision, à chaque fois je lui dis allez tu poses la caméra là, tu me fais un petit travelling et à chaque fois il me surprenait en proposant un truc qui fait la différence, donc ça a été un bonheur total de bosser avec Julien Poupard.
En revanche, rassurez-moi, c'est vous qui dirigez les acteurs.
Ah oui, mais totalement. Ça, après,
donc là, c'est un gros boulot parce qu'il y a plein de non-acteurs.
Bien sûr, et en même temps, moi, ça me permettait de me concentrer sur la mise en scène, sachant que j'avais entièrement confiance en Julien, donc je suis resté très focus sur la direction d'acteur que j'ai beaucoup aimé. Après, enfin, c'est mon premier film, j'avais déjà fait un docu-fiction, mais là, diriger les acteurs, je pense, c'est ce que j'ai préféré faire.
Ce qui était un énorme pari, parce que je crois qu'il y a 80% de
non-acteurs, oui, professionnels.
Comédiens présents sur l'écran qui sont issus des quartiers, qui sont des gens que tu as connus, que tu as castés, sur Clichy, sur Montfermeil. Et ça, c'était un gros pari. Et quand on voit le résultat, c'est assez bluffant.
L'Adjli, on vous a demandé de choisir une scène de ce film Les Misérables. Vous avez choisi celle des enfants qui jouent dans une piscine en plastique avec des pistolets, même des calaches à eau. Le film se déroule l'été, chaleur étouffante, comme il y a 30 ans, à Brooklyn, où un certain Spike Lee tournait Do the Right Thing, et nous avons mixé les deux films, Jeu d'eau, scène d'enfant et flic.
Officer, wait! Hold it! I want an arrest made right now! Hey, Microbe! Viens voir, là. Faites quoi,
là? Ouais, on est là en galère.
T'es plus de place au Club Med ou quoi?
Non.
Keep this hygiene up, hein? You wanna swim? Go to Coney Island!
T'es comment, cochon rose? T'es bien. Allez jouer, là.
I suggest you get to your car quick before these people start to strip it clean. Have a nice day, sir.
Cassez-vous là! Hey! Vas-y, démarre là!
Les cris d'enfants sont pareils hein, à Brooklyn ou à Montfermeil, c'est fou. Est-ce que ça a été une référence pour vous? Vous n'avez rien pompé sur lui, c'est-à-dire que des scènes comme ça, l'été, surchauffe, etc. Ça a été un modèle ou pas?
Pas vraiment un modèle. Bon, bien sûr, on a tous vu ce film. Ouais. Spike Lee, ça reste une référence importante. Mais bon, après, ce genre de scène, bah, tous les étés encore, quand vous allez cet été dans les cités, bah, c'est devenu presque une mode. Mmh. Ces gamins qui malheureusement ne partent pas en vacances pour la plupart sont livrés à eux-mêmes durant 2 mois. Donc, ils essayent de s'organiser au mieux pour passer un bel été. Et on voit dans cette séquence, bah, on a une cinquantaine de gamins qui ont créé leur propre Club Med pour essayer de passer un bon moment. Il y a énormément de joie, il y a énormément de vie, et c'est aussi ça la cité, c'est pas juste des moments durs. C'est un film qui parle avant tout de l'enfance. On se pose des questions sur l'avenir de tous ces gamins qui se retrouvent quelque part livrés. Enfin, j'explique souvent que moi, à mon époque, on avait plein de structures pour nous accueillir. Moi, j'ai jamais passé un été à la cité. J'ai toujours été en vacances. Et aujourd'hui, malheureusement, toutes ces structures ont été, n'existent quasiment plus. Les subventions ont été sucrées. Donc, cette séquence, elle est importante. Enfin, ce qu'elle raconte, c'est que voilà, ces gamins sont les premières victimes de tout ce système qui est mis en place.
C'est d'autant plus important, le choix de l'éthique. Du coup, les parents et les enseignants sont assez absents du paysage, du coup.
Oui, mais bien sûr, après, quand je dis le film se passe en été, donc c'est les vacances, c'est...
Oui,
pas
mais
d'école.
C'est pas un choix innocent, quoi.
Ah non, mais bien sûr, c'est une volonté de raconter période, ça. C'est une période un peu creuse, voilà, où ils sont livrés à eux-mêmes. Ouais. Enfin,
de vacances de tout.
On a tous été gamins, et c'était important d'expliquer, en tout cas, comment ça se passe l'été dans ces quartiers.
C'est là où le film est aussi très, très universel, parce qu'on retrouve ces ambiances-là dans d'autres films sud-américains, notamment au Brésil. Enfin, oui. C'est là où le film a une dimension universelle, parce qu'on est sur des thèmes qu'on va retrouver tout le temps. C'est la misère, c'est la pauvreté, comment on la gère, même dans un pays aussi puissant que la France. Il existe... Alors je vais citer l'ancien maire de Clichy-sous-Bois, Claude Dillin. Il disait, mais ces quartiers, ce sont des bidonvilles verticaux. C'est-à-dire qu'on les a empilés. Au lieu que ce soit un bidonville, comme on voit ces favelas qui s'étalent sur des kilomètres, là, on a fait des sandwichs, des espèces d'énormes sandwichs. Et il appelait ça Ah zut, j'ai trop peur.
Je ne pourrais pas t'aider, Jordan.
Il y a des références à la base, même si vous n'aimez pas avoir des références au cinéma. Vous parlez de Training Day, d'Antoine Fuqua, de Détroit, de Catherine Bigelow et de cette immense série qui est The Wire. Donc, je suppose, vous les avez revus tous les deux avant, vous?
On s'est regardé Détroit pendant qu'on écrivait le scénario. Ouais. Donc on était au cinéma et on a découvert ce film et notamment cette séquence huis clos dans l'appartement qui nous a beaucoup inspiré, qui nous a beaucoup aidé à écrire notre scène finale. Ouais. Et après, c'est vrai que Training Day, ça reste quand même une référence avec Denzel Washington. Pour moi, sans doute le meilleur acteur au monde. Donc c'est vrai que c'est un film qui nous a pas mal inspiré.
Le Training Day nous a...
Jordan nous dit la ligne.
Oui. Oui, c'est moi.
Il faut le rappeler, vous étiez avant. Vous imaginez, ils arrivent maintenant. Mais c'est qui ce garçon qui parle? C'est Jordano, j'ai derrière
le scénariste.
Enchanté.
Bienvenue.
Ce qui est très fort avec Training Day, c'est la première fois aux États-Unis qu'un acteur noir joue un salopard. Et ça, c'est une modernité. C'est-à-dire que tant que...
On sait bien, ça.
À ce point-là, aussi antipathique, aussi désagréable, aussi vicelard, c'est la première fois. Et dans un rôle de policier.
Oui, bien sûr.
D'autant plus. Et ça, c'est presque ça. C'est-à-dire que les acteurs noirs, on leur demande toujours, et on le voit beaucoup en France, d'être le second rôle, le gentil de service, d'être celui qui met en valeur d'une certaine façon.
On le voit beaucoup dans les pas beaucoup d'acteurs noirs en France.
Donc il n'y en a pas beaucoup. Donc quand s'ils sont à l'écran, s'il vous plaît, n'en faites pas un méchant, n'en faites pas un mauvais. Donc ils sont
toujours... Vous avez entendu ça?
Mais tout le temps, j'ai écrit avec Gary-Pierre Victor un court-métrage qui s'appelle Négropolitain.
Ouais.
C'est un terme péjoratif utilisé dans les Antilles pour parler des Antillais de la métropole, Négropolitain, avec Alex Descasse. Et Alex Descasse nous disait, il joue un policier, là encore, un policier dans ce film, un policier noir antillais, mais qui déteste les Africains. Et il nous disait, mais enfin, on me demande d'avoir un personnage qui peut être désagréable, qui dit des choses assez violentes. Et il me dit, on me demande toujours d'être le gentil dans les films, et on demande aux comédiens noirs d'être les gentils ou comédiennes. C'est toujours des rôles positifs. Et ça, c'est une nouveauté dans ce film de Training Day, d'avoir un personnage aussi méchant. Et je trouve que c'est une évolution. C'est ce qu'on a essayé de refaire aussi avec Ici les Misérables.
Je le disais en commençant, votre film a enthousiasmé la presse internationale à Cannes, et notamment les Américains. D'ailleurs, vous êtes présélectionné pour représenter la France aux Oscars, rien n'est fait. Avez-vous des chances d'être finaliste? Nous avons posé la question à Didier Alouche, notre correspondant à Hollywood. Un prix du jury à Cannes pour Les Misérables, est-ce que ça a du poids à Hollywood, Didier?
Ah bien sûr, surtout cette année j'ai envie de dire, parce que le Festival de Cannes a repris sa place dans la course aux Oscars, la fameuse saison des prix dont on parle tout le temps à Hollywood, ce qui s'est passé autour de films comme le Tarantino, Parasite et bien sûr Les Misérables. Ça a eu un écho jusqu'à Hollywood et ça se voit encore aujourd'hui dans cette fameuse saison des prix, dans cette course à l'Oscar, et ça devient de plus en plus important. Donc oui, absolument, ça a un poids énorme ici.
Est-ce que le film, justement, présélectionné aux Oscars étrangers, a ses chances, Didier ?
Oui, absolument. De plus en plus, j'ai envie de dire. Tout a commencé, en fait, au Festival de Kolkata. C'est le festival de films français à Hollywood, l'un des plus importants d'Amérique. Et au festival, le film d'ouverture, c'était Misérable. Et il s'est passé quelque chose. Ce soir-là, le buzz s'est déclenché juste là. Ça a été un triomphe absolu dans la salle. Il y avait des cinéastes qui l'ont beaucoup aimé. Il y avait des gens qui votent, qui étaient là et qui ont senti la passion autour de ce film-là. Il y avait le réalisateur, c'était là, Ladjili, il y avait ses acteurs aussi. Et ils ont vraiment transmis quelque chose. Le film a parlé, parce que le film est extrêmement fort, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. La fusée est partie à ce moment-là. Le lancement a eu lieu ce lundi de fin septembre sur Sunset Boulevard, dans la salle de la Directors Guild. Et il s'est vraiment passé quelque chose. Et je pense que si cette étincelle est bien entretenue, ça peut prendre. Il peut y avoir un véritable déclenchement autour de ce film-là. Et les gens d'Amazon qui distribuent le film aux États-Unis font ça très très bien, il faut le dire. Ils sont partout, ils font vivre le film, il y a des projections un peu partout. Le film sortira très intelligemment début janvier aux États-Unis. Ça veut dire qu'ils comptent sur une nomination, ils y croient à fond, ils sont à fond derrière. Donc vraiment, il est en train de se passer quelque chose autour des Misérables. C'est pour ça que oui, c'est une année difficile, oui, 2019 une année exceptionnelle en cinéma, il y a beaucoup de monde, mais moi j'écarte pas du tout les Misérables et je les vois bien dans les finalistes.
Comme on raconte tout dans cette émission, même ce qui se passe pendant les sons, on a vu Giordano Giardellini croiser les doigts. Mais c'est vrai, est-ce que c'est super important pour vous d'avoir un Oscar ? Pour le film.
Super important, je sais pas, mais le fait d'y être, c'est important, parce que nous, le message, on aimerait qu'il soit entendu, dans le monde entier.
Pas pour une carrière là-bas future.
Après, clairement, c'est pas ma priorité de faire des films aux États-Unis. Encore, enfin, on m'a déjà proposé plusieurs films que j'ai refusé. Moi, enfin, je pars du principe que j'ai un travail à finir ici, dans ces quartiers. Les Misérables, ce sera sur trois volets. On a déjà fait le premier. On a deux autres qui vont suivre. Donc, je me concentre vraiment sur ce travail.
Votre inspiration, elle vient de votre vie. C'est-à-dire que si vous quittez Montfermeil, vous serez un réalisateur, certes, mais sans ce jus, quoi, cette matrice.
Bah oui, pour moi c'est super important, c'est pour ça que je dis faire les films aux États-Unis, c'est pas ma priorité. Il y a tellement de choses à raconter sur ces territoires, moi j'ai tellement d'histoires, mais enfin Giordano pourra le confirmer, je pourrais écrire 15 scénarios, mais tellement on a d'histoires, et donc voilà, je me dis ma priorité c'est vraiment ici la France, les banlieues, et après j'espère une fois que j'aurai fini les deux prochains, je partirai sur autre chose.
Giordano, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à justement à ces Oscars et cette représentation au niveau d'Hollywood?
Elle est extraordinaire parce que c'est, il faut le rappeler, c'est un premier film. Et je vais oser le dire, un réalisateur français, noir, enfin c'est juste dingue. Mais le plus dingue, c'est que le film existe, c'est que le film ait pu être fait, c'est que cette énergie que tu as depuis 10 ans, voilà, ça a permis de faire un film assez extraordinaire, j'ose le dire.
Tu ne peux pas. Mais
c'est aimé parce que je l'ai découvert.
Mais c'est il est bien plus sympa que vous finalement.
Non, c'est parce que je l'ai accompagné en tant que témoin et je l'ai vu aussi prendre en main. Enfin, ce travail qui est extraordinaire et c'est un nouveau réalisateur qu'on a aujourd'hui en France. Je trouve que c'est ça qui est encore plus incroyable.
Alors, il y a un vieux réalisateur très reconnu aux États-Unis, un maître qui s'appelle Michael Mann, qui a fait entre autres Hit, Révélation, Ali, Collateral, Miami Vice, moi j'aime beaucoup, Public Enemy, et qui aime beaucoup votre film. Il est traduit par Cyril Sauvageau.
Alejandro González Iñárritu, un bon ami, m'a dit que Les Misérables était un film brillant. Il l'a vu à Cannes où il était président du jury. J'avais très envie de le voir. Le distributeur m'a arrangé une projection. Je soutiens le film à fond. C'est très spectaculaire. L'idée de drame tournant, avec les points de vue de chaque personnage qui finalement se rejoignent,
subtraction of value judgments makes it
tout en oubliant
so much
tout
more,
jugement de valeur.
Kind of kinetic and edgy.
Ça rend
and,
le film cinétique
and,
et audacieux.
Conveys a feeling of the true fabric.
Ça nous amène à ressentir le tissu même de cette réalité sociale et politique. C'est vraiment merveilleux.
Marvelous, you know.
Et vous connaissez Michael Mann, là, je l'ai.
Enfin, on se connaît, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai qu'il a vu le film, il l'a beaucoup apprécié. On a dîné ensemble à Los Angeles.
Vous parlez anglais ?
Très mal.
Oui.
Très mal. Mais bon, on a pu échanger pendant 3 heures et c'était un moment juste énorme,
oui.
Énorme. Il nous parlait du tournage de Heat, parce que sur le film, la dernière, enfin notre séquence, le face-à-face dans le bar, Pento et Guada, bon, on s'est inspiré de cette fameuse scène Al Pacino, De Niro. Donc je lui ai dit ça, il m'a parlé pendant 1 heure du tournage du Heat. Il m'a
dévoilé
tous les secrets de coulisses, c'était juste énorme.
Non mais la réunion des caïds dans le café, pour moi, c'est une grande scène de cinéma qui a dû être... C'est dû être quelque chose à mettre en place, ça.
Oui, quand même, c'était ouais. Assez costaud. Après, on l'a tourné une journée. Après, j'aime tourner les scènes où il y a du monde. Enfin, j'ai pris plus de plaisir à tourner toutes ces grosses scènes, les scènes d'embrouille, la dernière scène de guet-apens qu'on a tournée en 2 jours. Pardon, je vais pas le dire. Non, j'ai pas raconté. C'est juste la scène de fin qu'on a tournée en 2 jours. Mais en tout cas, oui, les grosses scènes. Moi, quand il y a du monde, quand il y a de l'action, c'est là où je m'éclate le plus.
S'il y avait une cinémathèque au Bosquet, imaginons que elle soit là et que c'est vous qui en êtes le patron, c'est vous qui la fournissez depuis le début. C'est une façon, toutes vos images, en fait, d'archiver votre histoire. À Montfermeil.
Oui.
C'est vous. Vous avez filmé l'histoire. Mm-hmm. Et c'est comme une cinémathèque.
Oui, un peu. Enfin, je veux dire, moi, je peux pas compter le nombre d'heures d'archives que j'ai, mais depuis que j'ai 17 ans, j'ai 20
mais
ans
oui.
d'archives dans les cartons. Mais c'est vrai qu'on pourrait. Après, on continue à archiver parce que j'espère que je vais continuer à le faire encore ces 10 prochaines années. Mais peut-être que dans 20 ans, on pourra réfléchir à faire une œuvre beaucoup plus grande.
Voilà, il y a un nouveau Lee dans le cinéma, après Bruce, après Spike, après Mike, Ladj Lee, réalisateur des Misérables, avec son scénariste Giordano Gederlini. Les Misérables sort mercredi prochain. On se retrouve avec un garçon que vous connaissez peut-être, c'est Oxmo Puccino.
Ouais. C'est quoi ce grand sourire sur ton visage?
Je me disais que les gens ils savent pas à quel point on a réussi notre life.
My life.
On a réussi notre life.
Ah ouais. Ha ha ha, j'ai réussi ma life. Demain je sais pas, mais aujourd'hui j'ai réussi ma life. Qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pris ma place? Je suis même pas sûr que t'aurais réussi ma life. Sneakers classés, j'ai réussi ma life. J'ai racheté tous mes jouets, j'ai réussi ma life. J'ai plus rien à prouver, j'ai réussi ma life. Putain, j'ai réussi ma life, je me lève à midi. Y'a des choses qu'il vaut mieux remettre au lendemain comme le suicide. Oui, oui, je maîtrise la chimie. S'il y a du rap de Yankee, je dois être le scientifique, celui qui s'enrichit. Perdu dans mes pensées quand y'avait pas de plan. Absent, avant, quand la vie n'avait pas de sens. Quand j'étais pas sûr d'avoir du talent, quand j'y croyais pas. Boule au vent, tellement gros, je pouvais faire des caméas. J'ai la formule secrète, j'ai des nouveaux et des vieux textes. Des vérités, ils sont des peut-être. Mes ex me regrettent, j'ai réussi ma life. J'ai plus genre de truc où tu te sens sale comme après deux grecs. C'est ta Rolex mais c'est mon heure. Ta percée c'est super, maintenant essaye de tenir la longueur. Je rentre en boîte en Quechua, je suis fidèle. C'est pour ça que ta pétasse rentre chez toi, n'est-ce pas? Je voulais écrire pour ces petits bâtards, mais la seule chose que j'ai trouvé à dire c'est ha ha. J'ai réussi ma life, j'ai réussi ma life.
Koiba, Chivas, j'ai réussi ma life. À nouveau, Moulinet, j'ai réussi ma life. Aubergine, Parmesan, j'ai réussi ma life. Plus de batterie, j'ai réussi ma life. Ce que je fais de ma vie, j'écris des vaccins. Trouver des formules pour frimer des choses simples. Positivité recto verso, je remercie la vie quand je me sers un verre d'eau. Tu sais ce que ça fait de sentir happy. Après autant de réveils sur le tapis, sous la pluie, assis sur un banc, porte de pantin, sans aucun plan, aucun tapin. Je chante avec nonchalance, à ton avis, si t'es pas fan, je m'en balance. Dans le plaisir de chaque instant, depuis que je me remets de la délinquance. Primés, ils n'ont aucune raison de s'en devenir meilleur qu'une saison 2. Je vais m'en sortir avec Aurel en fit solide. pas comme une clope et Oli. Tu peux enchaîner les cadeaux, c'est toi le prisonnier. Tu s'achètes pas, tu tombes dans les 6 premiers rounds. Tellement de blindés qui ont raté leur life. À cette heure précise, j'ai réussi ma life.
On parlait du Festival de Cannes 2019 où l'Algérie était récompensée, mais là, on parle du Festival de Cannes 1939, comme si vous y étiez, Laurent, à Orléans cette semaine, pour une compétition qui n'a jamais eu lieu, en fait.
Oui, parce que le 1er septembre 1939, à Cannes, les affiches du premier festival qui allait se dérouler pendant 10 jours, ont été recouvertes tout simplement par les affiches de la mobilisation générale et de l'entrée en guerre. Donc 80 ans plus tard, Antoine Debecq, avec la municipalité de Vanves, et puis surtout les deux filles de Jean Zay qui était alors ministre de l'Éducation et des Beaux-Arts, ont décidé de rejouer le match, ou de jouer plus précisément, parce qu'il n'a jamais été joué. Voilà, donc j'ai rencontré Antoine Debecq pour justement qu'il nous raconte cette incroyable aventure de faire quelque chose qui n'a jamais eu lieu.
On refait l'histoire, on répare l'histoire, on invente l'histoire. C'est vrai que c'est, il y a quelque chose d'un peu expérimental qui m'a beaucoup plu. Quand Hélène et Catherine Zay, les filles de Jean Zay, sont venues me voir il y a 3 ans pour me mettre dans les mains comme ça cette idée de faire quelque chose autour de la création du Festival de Cannes, qui est la création de leur père, Jean Zay, en 1939, voilà, et à ce moment-là, j'ai répondu par l'idée de refaire, de rendre hommage, mais aussi de réparer, voilà, de non pas de faire comme si la guerre n'avait pas eu lieu, c'est pas du tout du révisionnisme, c'est réparer, voilà, c'est ça.
Vous lui trouvez des vertus pédagogiques à cette édition 1939 ?
C'est la vertu de Cannes, du Festival de Cannes, toutes les éditions propose une sorte d'état du monde, qui est un état du monde du cinéma, mais un état du monde de l'actualité. Et en 39, c'est passionnant, évidemment, d'avoir ces 30 films venant de beaucoup de pays, comme ça, qui disent, qui sont tous centrés autour de cette peur de l'avenir. Beaucoup des films, quand même, sont centrés sur ce contexte-là, surtout de voir tout ça à 80 ans de distance. À la fois, on peut faire comme si, c'est de la cinéphilie expérimentale, comme si, voilà, tout d'un coup, on se replaçait dans l'idée de « Ah, le nouveau film d'Hitchcock, voilà, qui vient de sortir, qu'est-ce qu'il vaut ?» Bon, on peut jouer à ça, c'est tout à fait amusant. Et puis, en même temps, on peut aussi se dire que ces films, bon, ils ont aussi une résonance aujourd'hui, ou un certain nombre de motifs et de thématiques, je dirais, de l'histoire de 1939 sont pas très très éloignés de ce qui se passe aujourd'hui. La montée de l'extrême droite, c'est quelque chose qui nous fait très peur aujourd'hui. Et en voyant les films de 39, on peut en tout cas essayer de comprendre cette peur.
Quel film vous mettriez en avant ? Pas de Palme d'Or, puisque ça n'existait pas, là ce serait un anachronisme total, mais quel film quand même, pour vous, ressort de cette édition 39 ?
Alors moi j'ai une petite tendresse, mais je suis pas le seul, pour Elle et lui de Léo Macaré, qui est un film absolument génial, à la fois bouleversant et tellement élégant, juste. Je donnerais volontiers le Grand Prix Jean Zay, puisque c'est ça que Amos Gitaille décernera samedi, à ce film. J'espère qu'on le retrouvera dans le palmarès, oui.
Palmarès ce soir.
Alors lui, il était à Cannes, c'est Little Joe de la réalisatrice autrichienne Jessica Ostner. Alice est une phytogénéticienne chevronnée qui travaille pour une société spécialisée dans le développement de nouvelles espèces de plantes. Elle a conçu une fleur très particulière, rouge vermillon, remarquable tant pour sa beauté que pour son intérêt thérapeutique. Si on la conserve à bonne température, si on la nourrit correctement, on lui parle régulièrement, la plante rend son propriétaire heureux. Film de science-fiction parano, donc film de genre dans un film d'auteur, désossé d'incarnation, recouvert d'ennui, un film glacial et poseur, Laurent.
Ah oui, tout à fait, on peut pas dire mieux ou pire, en tous les cas, on dirait du Lantimo sympathique ou alors du Gessuel lyophilisé, au choix, on verra. Mais enfin, en tous les cas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Ah bon,
ça s'appelait Little Joe, pardon.
Oui, pardon.
Voilà. Oui.
Le Mans 66 de James Mangold, l'auteur entre autres de Copland et Walk the Line ou Logan. Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d'excentriques ingénieurs américains menés par le visionnaire Carroll Shelby, c'est Matt Damon, et son pilote britannique Ken Miles, c'est Christian Bale, qui sont envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 66. Franchement, je ne m'intéresse pas du tout à la course automobile et même je ne comprends surtout pas l'enthousiasme qu'elle génère. Et je vous jure que ces 2h32 de film m'ont captivé tellement l'histoire de ce grand duel Ford-Ferrari est bien racontée de façon humaine et à la fois trépidante, élégante, sans effet de mise en scène, plutôt classique, même pour encore mieux correspondre à l'époque, les années 60. Dans les coulisses, la mécanique, les rivalités, la sensation de la course vécue est tellement bien ressentie par ce dingue de Christian Bale, hurlant dans son bolide son enthousiasme quand il dépasse son rival, et puis Matt Damon, son mentor, son ami, puisque c'est aussi une grande histoire d'amitié, le coachant au bord du circuit, son humeur, son ironie, son charisme. J'ai déjà envie de revoir le film rien que pour cette scène où il fait tester son prototype à Henry Ford, tétanisé de peur et d'enthousiasme. Ajoutez à cela le suspense que moi je connaissais pas la fin. Et c'est encore mieux, ça s'appelle Le Mans 66. Allez-y. Le bel été de Pierre Creton, Laurent. Robert, Simon et Sophie vivent au bord de la Manche dans un quotidien d'habitude. Nessim va entrer dans leur vie, suivi d'enfants que la situation politique de l'Afrique menace. Tous ont traversé la Méditerranée pour se réfugier en France. Ils vont vivre tous ensemble en Normandie le temps d'un été.
Oui, bon, c'est un peu un objet cinématographique non identifiable. Ça mêle effectivement trois jeunes réfugiés qui jouent leur propre rôle avec des acteurs professionnels dont Mathieu Amalric en garagiste. Alors on y croise Jean Genet, Virginia Woolf, des gens qui font du jardinage, des gens qui font une tarte aux pommes, des amours estivales, des baignades, la voix off d'une écrivaine qui nous rappelle tout un contexte littéraire et cette affectation du cinéma d'auteur français. Voilà, alors à force d'effleurer les choses, à force d'être allusif, à force du presque rien, Pierre Creton, le réalisateur, prend tout juste le risque de laisser son spectateur sur le bord de la plage, on voit beaucoup de plages dans le film, et puis de voir le film se lancer à l'eau sans le spectateur, ce qui est un peu dommage malgré tout. Ça s'appelle Le Bel Été.
Noura rêve de la réalisatrice tunisienne Hinde Boujema. 5 jours, c'est le temps qu'il reste avant que le divorce entre Noura et Jamel, un détenu récidiviste, ne soit prononcé. Noura, qui rêve de liberté, pourra alors vivre librement avec son amant l'Assad. Mais Jamel est relâché plus tôt que prévu et la loi tunisienne punit sévèrement l'adultère. Noura va alors devoir jongler entre son travail, ses enfants, son mari, son amant et défier la justice. Le tout en fil tendu donc pour jongler aussi avec cette société, cette justice tunisienne, on l'a compris, pas vraiment en faveur de la femme, doux euphémisme. Et cette procédure complexe est parfaite pour un scénario de fiction, de cette complexité qu'on a déjà vue dans le cinéma iranien, notamment celui de Faradi dans Une séparation, sauf que dans ce film-là, elle est bien moins subtilement décrite, à gros traits parfois, comme la violence du mari très chargée, pareil pour la police de Mesh avec lui. Voilà ce que je pensais et que je pense toujours avec un gros bémol positif lié aux propos de la réalisatrice. Si j'ai été aussi loin dans cette vengeance, dit-elle, c'est pour faire accepter mon personnage féminin et ce qu'elle vit. Alors oui, parfois même au détriment du cinéma et de ses subtilités, il faut peut-être appuyer là où ça fait mal pour convaincre, surtout un public tunisien où le film va être présenté et où la réalisatrice a l'intention d'organiser des débats.
Oui, voilà, je pense que si on était aujourd'hui, si on émettait de Tunis, on ferait moins la fine bouche, c'est
oui,
évident, bien
c'est
sûr.
Vrai.
Voilà, on est les cinéphiles que nous sommes sont un petit peu réservés sur des flottements et des invraisemblances de la mise en scène et du scénario. Reste que, effectivement, ce que dit le film, ce que dit ce Noura rêve, ce message,
ouais,
il est très important.
Rendre la justice, c'est un doc signé Robert Salis, un portrait de la justice par celles et ceux qui ont la responsabilité d'avoir à juger leurs semblables, Laurent.
23 juges, et pas n'importe lesquels, hein, vraiment le haut de gamme de la justice française, dont un qui dit par exemple, il est juge à Paris, je ne vous garantis pas que je n'ai pas broyé quelqu'un dans ma carrière. Et en écho, en quelque sorte, Renaud Le Breton de Vanoise, qui est le président du TGI de Bobigny, personnage très important, lui, il dit il faut absolument se préserver d'humilier les personnes. Voilà, entre les deux rives entre lesquelles ces juges, ces magistrats, haut placés, avec effectivement tout sur leurs épaules, le poids de ce qu'ils ont à juger. On passera sur la forme qui est presque télévisuelle et assez peu cinématographique, et on restera sur cette citation du testament d'Orphée que dit François Perrier à la fin du film. Nous ne pouvons être condamné à pire, à juger les autres, à être des juges. Voilà ce que dit rendre la justice.
J'aimerais qu'il reste quelque chose. C'est aussi un doc signé Ludovic Cantet, qui a travaillé pour le mémorial de la Shoah en tant que documentaliste. C'est durant cette mission qu'il a découvert l'existence de la permanence photographique du mémorial. Tous les mardis de 14h à 17h30, il a vu des bénévoles accueillant des familles juives qui souhaitent faire don de leur archive personnelle. Il les a filmés dans un dispositif simple mais très parlant. Plutôt que d'être face à face, il les a assis côte à côte pour bien voir et le bénévole et le donneur des dons de documents précieux, lettres, photos, témoignages, objets gardés par les familles et qu'ils souhaitent transmettre au mémorial. Certaines histoires racontées sobrement sont terribles et très belles. Écoute attentive, empathique de ces bénévoles. À l'arrivée, ce film, j'aimerais qu'il reste quelque chose, est un document qui ne sera, bien sûr conservé par ce mémorial parce que la boucle du souvenir ne sera jamais bouclée.
On rappelle que selon un sondage récent, un jeune sur cinq, et quand on dit jeune, c'est 18-34 ans, ça concerne pas mal de monde, un jeune sur cinq n'a jamais entendu parler de la Shoah. Je pense que de ce point de vue-là, ce film est absolument nécessaire. Alors effectivement, une photo, un porte-cigarette, un petit bateau en bois, une étoile jaune, une vraie, pas celle qu'on introduit à tort dans une manifestation récente. Tout ça dit effectivement des choses un peu à la façon de Perec ou de Modiano, avec, vous le disiez, la culpabilité des vivants.
Très rapidement, L'âme du vin, encore un doc, Marie-Ange Gorbanevski. Encore le vin, Laurent ?
Oui, alors le vin du côté du terroir, mais aussi peut-être du terroir caisse, comme on dit, c'est-à-dire quand même que ça nous balade en Bourgogne dans des domaines où ni vous ni moi n'irons jamais, parce qu'on n'a pas l'argent pour ça. Et quand on voit deux Japonais extatiques se balancer dans la gorge un Chambol Musil 1945, on se dit qu'heureusement en Bourgogne, il y a d'autres vignobles plus modestes, voilà, qui nous permettraient de mieux, au fond, atteindre la vérité de ces crus bourguignons.
On a 30 secondes pour deux cadeaux, Laurent.
Oui, deux cadeaux. Alors, deux cadeaux. L'un pour Lajli. Allez, tout de suite, c'est Quentin Tarantino, s'il vous plaît, chez Gallimard, une intégrale film par film. Pour vous, Giordano Gherlini, un collègue, enfin en tout cas un collègue écrivain qui a pas mal été adapté, il paraît. Hein. Stephen King, anthologie de Stephen King à l'écran, c'est chez Hachette. 80, plus de 80 adaptations. On n'a pas aussi dit qu'on avait deux festivals à vous proposer. Ouais. Un au nord, à Amiens, le FIFAM, jusqu'au 23 novembre. Un au sud, c'est une thématique. Les rencontres cinématographiques de Cannes, jusqu'au 25 également, avec beaucoup d'avant-premières et une attention portée au jeune public.
Merci Lajli.
Merci à tous.
Merci pour ces cadeaux.
Merci beaucoup.
Et merci pour ce film, Les Misérables, qui sort mercredi prochain. On vous laisse les clés du générique de fin. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Ophélie Vivier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacant.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Lajli, j'y étais.
Et moi, Giordano Gherlini, j'y étais aussi.